France Inter.
Ce soir, une seule voix, celle d'un précurseur qui vient de nous quitter et grâce auquel une île, la Jamaïque, qui n'avait jusque-là rien apporté à la musique à l'échelle du monde, s'est mise à exister. Et non, non, ce n'était pas Bob Marley. The Harder They Come, c'était la voix du chanteur jamaïcain Jimmy Cliff en 1972, une voix soul capable de passer de la douceur à l'âpreté. Il en existait évidemment d'autres que la sienne au début des années 70, dans le sillage du grand Otis Redding, parti trop tôt en 67. Cependant, aucune voix soul n'avait jusque-là rayonné dans le reste du monde à partir du Nil, que en France, peu auraient même été capables de situer sur une carte. J'ai nommé bien sûr la Jamaïque. Une petite île située au sud de Cuba, à la superficie plus modeste encore que celle de sa voisine des Caraïbes, Haïti, c'est de là que venait Jimmy Cliff, dont on vient d'apprendre la disparition à l'âge de 81 ans. Sans Jimmy Cliff, en effet, le mot de reggae, qui désigne un rythme si particulier, n'aurait jamais traversé les frontières. C'est Jimmy Cliff qui a ouvert la voie à Bob Marley et qui, façon de parler, aurait pu devenir Bob Marley à la place de Bob Marley. Je m'explique. En 1972, un entrepreneur blanc, anglo-jamaïcain du nom de Chris Blackwell, fondateur à Londres des Disc Island, a une certitude. Le reggae, né sur son île, la Jamaïque, qu'il connaît par cœur, va conquérir le monde. Alors pas du tout le reggae comme on s'en forge l'image aujourd'hui, une image au fond très, très édulcorée, hein, une musique sympa qui vous aide à vous détendre, à vous laisser aller, non pas du tout. Chris Blackwell a à ce moment-là une certaine vision du reggae qui vient de naître, une musique du tiers-monde qui offre une voix à une population d'anciens colonisés qui réclame la fin des injustices et appelle à renverser l'ordre établi. En somme, un message de rébellion, à même de séduire une certaine jeune population occidentale remuante en mal d'espoir révolutionnaire dans ces années-là. Et pour ça, Chris Blackwell, en 1972, pense tenir la star parfaite, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff chante comme un ange, il est beau, ses chansons connaissent déjà le succès au Royaume-Uni et aussi dans quelques pays d'Europe continentale. Et puis en plus, il a l'image requise du rebelle flamboyant. Oui, parce que Blackwell a une idée, vendre, entre guillemets, à un public de jeunes occidentaux, souvent des étudiants, un chanteur jamaïcain à l'image située quelque part entre Che Guevara et Jimi Hendrix. Seulement, il va avoir une amère déception, parce que Jimmy Cliff, dont Chris Blackwell a aidé et soutenu la carrière dès ses débuts, préfère au dernier moment renoncer et signer un contrat avec une autre maison de disques, EMI, plus généreuse et qui n'a pas du tout la même vision de lui. Évidemment, 50 000 dollars à l'époque, c'est une somme énorme, il y a un demi-siècle. Alors, très dépité, Chris Blackwell se retrouve dans la situation d'un producteur qui a monté toute la production d'un film autour d'une star, star qui, au dernier moment, lui fait faux bond. Et néanmoins, le destin va lui sourire, puisque une semaine plus tard, un autre chanteur jamaïcain qu'il connaît bien, et oui, Bob Marley, vient le voir. Illumination de Chris Blackwell, il est sauvé. Bob Marley, bien sûr, tiendra le rôle imaginé pour Jimmy Cliff. La suite est évidemment très bien connue, évidemment. Marley sera le héros révolutionnaire, mélange, comme je vous le disais, de Che Guevara et de Jimi Hendrix, avec aussi quelque chose de Martin Luther King. Jimmy Cliff, lui, de son côté, restera le chanteur sympa qui vous fait passer un bon moment. Et beaucoup aujourd'hui, c'est vrai, ne le connaissent que pour un tube pop du début des années 80, Reggae Night. Très éloigné dans la facture comme dans l'esprit des chansons qui avaient fait connaître Jimmy Cliff et qui ont joué un rôle historique dans la naissance internationale du reggae. Chansons qui méritent d'être éclairées parce que, déjà, enfin, elles sont très belles et puis en plus, c'est un point d'histoire absolument passionnant. En fait, tout est parti d'un film qui s'appelle The Harder They Come, réalisé en 72, dans lequel Jimmy Cliff, acteur et chanteur, interprétait le rôle d'un voyou au grand cœur. Je vais vous en parler évidemment de ce film, mais avant ça, voici une autre chanson extraite de la BO de The Harder They Come, écrite et interprétée par Jimmy Cliff, bien sûr. La chanson s'appelle You Can Get It If You Really Want.
Succeed at last. Thank you. seat at last.
Suffering in the Land, une chanson écrite et interprétée par Jimmy Cliff en 1969 et qui étrangement a été un succès aux Pays-Bas. Vous l'avez entendu, vous vous êtes rendu compte, le rythme et la mélodie sont tout à fait dans le style de Obladi Oblada de Paul McCartney avec les Beatles qui l'année précédente s'était amusé à copier ce style de pré-reggae qui commençait à devenir à la mode en Angleterre. Il faut néanmoins pas se fier aux apparences de cette chanson, au style naïf et Guiret. Alors je cite les paroles de Suffering in the Land. C'est évident, on est dans une situation terrible. Il y a de la souffrance sur Terre, un Suffering in the Land. Près de la moitié du monde est au bord de la famine et les enfants réclament davantage d'éducation. Les riches deviennent plus riches encore et les pauvres toujours plus pauvres. On fabrique des armes et des bombes pour embraser le monde, etc., etc. Bon, alors évidemment, ce sont des formules naïves, simples. Jimmy Cliff a 24 ans en 69 et il écrivait et chantait ça avec la sincérité naïve, touchante des enfants. C'était là, d'une certaine façon, à l'état premier, les thèmes des chansons à venir de Bob Marley. Alors, je vous parlais de ce film, The Harder They Come, sorti en 1972. C'est le film qui a fait de Jimmy Cliff une vedette internationale. The harder they come, the bigger they fall, dit la chanson de la BO, qui a donné son titre donc au film. C'est-à-dire, c'est l'inversion d'une formule toute faite en anglais qui dit plutôt « the bigger they come, the harder they fall », c'est-à-dire « plus on est haut, plus dure est la chute ». Là, c'est plutôt « plus ils sont durs, plus ils tombent de haut ». Ce film, tourné en Jamaïque, racontait l'histoire d'un apprenti chanteur, Ivanhoe, dit Ivan, incarné par Jimmy Cliff. Alors l'histoire donc, est celle de cet Ivan, c'est un humble campagnard qui débarque dans la grande ville, la capitale de la Jamaïque, Kingston, et ça se passe tout de suite très très mal pour lui. Il se fait agresser, enfin bon. Et puis alors, il cherche du boulot, il tombe sur le pasteur d'une église locale qui l'exploite pour des travaux pénibles, mais secrètement, Ivan ambitionne de chanter. Cependant, le pasteur, évidemment un sale type, enfin je dis évidemment, c'est dans l'histoire, le vire parce que le garçon a osé chanter au temple une chanson non religieuse. C'est le conflit classique entre le gospel, qui est considéré par les croyants comme pur, et la soul, estimée impure, parce que c'est une musique séculière. Bref, tout va de mal en pis pour Ivan, qui se bagarre avec un voyou, qui veut lui voler le vélo qu'il a fabriqué tout seul. La police l'arrête, le punit en lui administrant des coups de fouet, c'était comme ça en Jamaïque. Mais enfin, Ivan parvient quand même à enregistrer sa chanson, qui a un grand succès. Hélas, il a des embrouilles avec le producteur, un type véreux qui évidemment l'escroque. Alors le malheureux, qu'est-ce qu'il fait ? Il vend de la ganja pour s'en sortir, sous les ordres d'un trafiquant qui est de mèche avec la police. Alors on l'exploite, Ivan se révolte et, catastrophe, il tue un policier. C'est l'engrenage fatal, Ivan devient un gangster, il a la police à ses trousses, il tue un motard au cours d'une fusillade et il devient un hors-la-loi qui fascine la jeunesse. Alors, en Jamaïque, ce film a été un triomphe, il a créé la sensation parce que, pour la première fois, la population voyait et entendait au cinéma, à l'écran, des acteurs qui parlaient ce qu'on appelle le patois jamaïcain, c'est comme ça qu'il appelle patois. D'ailleurs, il a d'ailleurs fallu sous-titrer ce patois, même pour un public anglophone, quand le film a été projeté dans le reste du monde, parce que si vous n'avez pas vécu là-bas, cette langue, le patois jamaïcain, est strictement incompréhensible, même si vous êtes anglophone. Alors, le succès de ce film a été une révélation pour Chris Blackwell, le patron des Disc Island, dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque Blackwell a vu, comme je vous le disais, Jimmy Cliff devenir un symbole international. Alors, ce n'est pas ce qui est arrivé, puisque, comme je vous le disais, c'est Bob Marley qui a endossé ce rôle. Pourtant, Jimmy Cliff avait posé des jalons sur le chemin de ce reggae engagé, cette chanson révoltée, concernée par le sort inquiétant du monde que donc Bob Marley a si bien illustré et incarné. En 1970, Jimmy Cliff avait écrit et diffusé une chanson qui avait touché Bob Dylan, il en avait parlé, qui s'appelle Vietnam, comme le pays. Elle racontait simplement qu'une mère de soldats recevait du Vietnam le télégramme suivant, je cite, « Mrs. Brown, ne soyez pas alarmée, mais votre fils est mort ». Vietnam, 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 une chanson écrite et interprétée en 1970 par Jimmy Cliff. Jimmy Cliff qui vient de nous quitter et auquel je consacre, c'est bien naturel, un Very Good Trip spécial ce soir sur France Inter. Comme je vous le disais, Jimmy Cliff est le premier chanteur à avoir suscité un engouement international pour le rythme du reggae. Il faut rappeler que personne, au début des années 70 ou presque, ne connaît Bob Marley et les Wailers en Europe. En revanche, le premier album de Jimmy Cliff, sorti en 69, qui contenait le splendide Many Rivers to Cross, on entendra cette chanson tout à l'heure, elle a été reprise par Joe Cocker et quelques autres. Cet album a été diffusé aux États-Unis comme en Grande-Bretagne et il a passionné les musiciens de folk et de rock américain. Exemple, le New-Yorkais Paul Simon, à la moitié de Simon & Garfunkel, s'est envolé dès qu'il l'a pu pour Kingston en Jamaïque, tellement il était fasciné, et il s'est retrouvé dans le studio même où Jimmy Cliff avait enregistré, et il s'est fait accompagner par les musiciens de ce dernier. C'est ainsi que Paul Simon a gravé en 1971 le premier reggae américain qui s'appelait Mother and Child Reunion. Voici une des chansons de l'album de Jimmy Cliff qui avait le plus circulé dans ces années-là, une chanson qui appelle à la réconciliation, à la fraternité. On est très proche, là, encore une fois, de Bob Marley. Alors, je cite les paroles. « Hommes et femmes, filles et garçons, essayons de nous tendre la main. Je suis sûr que grâce à l'amour, on peut tous s'entendre. Tout le monde veut vivre en liberté. » Au lieu de faire des histoires, de se battre, de se mentir, de médire, de se scandaliser, de se haïr. Cette chanson s'appelle « Wonderful World, Beautiful People », un monde magnifique, des gens merveilleux.
France Inter, Mishka Assayas. said you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Connaissent bien sûr cette chanson Wild World qui avait été écrite et créée à l'origine par Cat Stevens. C'était dans son deuxième album qui était paru chez Island, Tea for the Tillerman, qui est sorti donc en 1970. C'est cependant Jimmy Cliff qui, quelques mois plus tard à peine, en a fait un tube en Europe et aux États-Unis. Une version qu'on entendait pas mal à la radio, qui a d'ailleurs été reprise une quinzaine d'années plus tard, à la fin des années 80, dans un style reggae-pop au son synthétique à la mode en ce temps-là, à la fin des années 80, donc par le très bon chanteur londonien Maxi Priest. Cela dit, la chanson qui reste sans doute la plus connue, qui est signée Jimmy Cliff, on ne sait pas forcément qu'elle est de lui, c'est Many Rivers to Cross. Alors beaucoup d'entre vous connaissent sûrement cette chanson dans son interprétation la plus connue par un des plus grands chanteurs de sa génération, j'ai nommé l'anglais Joe Cocker, qui nous a quittés il y a plus de 10 ans déjà. Oui, cette ballade Many Rivers to Cross était un des sommets d'un album de Joe Cocker qui s'appelait Sheffield Steel, paru en 1982 et qui avait marqué le retour de ce très grand chanteur au premier plan. En fait, Jimmy Cliff avait écrit et interprété cette chanson en 1969, mais c'était pas un tube du tout à l'époque. Cela dit, le premier qui a remarqué cette chanson et qui l'a reprise, c'est le chanteur américain Harry Nilsson, le grand copain de John Lennon. Il en avait chanté une très belle version dans son album Pussycats, réalisé en collaboration justement avec Lennon. C'est une chanson qui tenait beaucoup à cœur à Jimmy Cliff. Il y avait mis en effet toutes ses peines, toutes ses désillusions. En effet, à la fin des années 60, débarqué à Londres de sa Jamaïque natale, la tête pleine d'espoir, oui, Jimmy Cliff rêvait de la gloire des Beatles, des Stones, tout ça, et il avait dû, hélas, assez vite déchanter. Le succès n'arrivait pas, enfin, pas assez vite, pas assez grand pour lui, et un jour de désespoir, eh bien, Jimmy Cliff avait écrit cette chanson, hein, je cite, « Tant de fleuves à traverser, mais je n'arrive pas à trouver le passage, j'erre comme une âme en peine, alors que je vogue le long des blanches falaises de Douvres. » Oui, Jimmy Cliff avait bien des fois pris le ferry pour aller en France, en Allemagne, pour des récitals de musique soul, où il chantait des reprises, comme « When a Man Loves a Woman » de Percy Sledge, c'est un standard. D'ailleurs, je suis tombé sur un documentaire de Lina, où on voit Jimmy Cliff avec une belle chemise noire à pois blancs reprendre justement cette chanson, c'était lors d'un festival de musique soul en 1967 au Palais des Sports. C'était au temps où Jimmy Cliff chantait au sein d'un orchestre qui mêlait, sans grand succès, faut le dire, ses compositions à des reprises de chansons soul. En tout cas, c'est cette interprétation de cette chanson Many Rivers to Cross par Jimmy Cliff qu'il avait composée en 69 et qui vraiment reste dans l'histoire. C'est la plus pure, en tout cas, de toutes les versions qui circulent.
Some time to search my soul. distance, but I know that my fate will lead me on. I can't say what life will show me, but I know what I've seen. I can't say where life will lead me, but I know where I've been. Tried my hand at love and friendship, but all that is past and gone. This little boy is moving on. Sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Sitting here in limbo, knowing
Sitting in Limbo, un bel exemple de la douceur et de l'élégance du timbre de Jimmy Cliff, une chanson triste, une chanson de découragement, quoique éclairée par un faible rayon de soleil. C'est un peu comme le splendide Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Cette chanson figure dans la BO du film The Harder They Come, dont je vous parlais tout à l'heure, et voici ce qu'elle dit. « Je me tiens dans les limbes, comme un oiseau qui a perdu sa chanson, j'attends le nouveau coup de dé. » qui décidera de mon sort. J'ai essayé l'amour et l'amitié, mais tout ça c'est fini. Et l'enfant que j'étais doit avancer. Les autres y résistent, mais moi, seule la foi va me pousser. C'est dans ces années-là, celles où le jeune Jamaïcain arrivé en Angleterre pour vivre ses rêves et qui se heurte encore à des murs, c'est dans ces années-là que Jimmy Cliff écrit ses plus belles chansons, dont, bah, vous vous en êtes rendu compte, certaines sont restées des classiques. De son état civil, James Chambers, il avait d'ailleurs choisi ce pseudonyme de Jimmy Cliff, Cliff comme falaise, justement pour souligner la hauteur de ses ambitions. Jimmy avait grandi loin de Kingston, en Jamaïque, dans un modeste village près de Montego Bay, hein, c'est de l'autre côté, dans le nord-ouest de l'île. Une enfance extrêmement démunie, hein, pas d'eau courante à la maison, un père très religieux qui l'emmenait au temple pentecôtiste. Jimmy aimait la musique, il aimait les chants, il aimait tout ça, mais enfin la religion beaucoup moins. Il voulait en fait déjà connaître le vaste monde, il passait des heures, il l'a raconté, à regarder des cartes géographiques pour mémoriser le nom des paysages, des montagnes, des villes qu'il voulait connaître, hein, jusqu'en Chine. Il y est allé d'ailleurs. Et c'est grâce à la radio, à une station sur ondes courtes, qu'il a découvert les chanteurs de rhythm and blues et de rock and roll qui ont été ses modèles, Little Richard et Fats Domino en particulier. Alors à l'école, Jimmy a appris la menuiserie et il a obtenu une bourse pour aller dans un lycée technique à Kingston. Et donc obsédé de musique, il était arrivé tout seul, enfin sans trop savoir comment, enfin il avait écrit 4 chansons. Et il était parvenu à Kingston à convaincre un marchand de glace, et oui, d'origine chinoise, Leslie Kong, mélomane, il avait convaincu de se lancer avec lui dans l'aventure de la musique. Et en effet, galvanisé par le talent du gamin, Jimmy Cliff, Leslie Kang a carrément équipé un studio d'enregistrement de fortune dans son échoppe de glace pour enregistrer Jimmy Cliff. Et c'est justement chez Leslie Kang, alors que Jimmy répète une nouvelle chanson au piano, que celui-ci voit entrer un garçon dans la boutique, plus jeune que lui, un garçon qu'il n'a jamais rencontré, et oui, c'est Bob Marley, et qui d'emblée dit à Jimmy Cliff « C'est chouette ce que tu fais ». Et tout de suite, il y a une connexion entre les deux. Jimmy Cliff écoute Bob Marley chanter deux de ses chansons. Il est subjugué. Il est vraiment le premier à repérer le talent de Bob Marley et à encourager la carrière de ce garçon de 14 ans, alors apprenti soudeur. Jimmy Cliff a expliqué ainsi dans une interview qu'il a donnée voici une dizaine d'années au magazine Rolling Stone la différence de destin entre lui et Bob Marley. « Moi, dit Jimmy Cliff, j'étais un solitaire. » Bob Marley, lui, il aimait tout le monde, les bons, les brutes et les truands. Alors bon, je n'ai pas tout le temps, il s'en faut de beaucoup pour aborder tous les aspects de la carrière de Jimmy Cliff en un point d'une heure. Je vais me permettre d'enjamber toute la période pop, Reggae Night, tout ça. Et je voudrais plutôt éclairer des titres plus profonds peut-être de Jimmy Cliff, comme ce Bongo Man de 1975. Alors je m'y perds un peu, il y a une autre version plus longue en 78, et il l'a reprise d'autres fois. Je ne connais pas au juste toutes ces histoires autour de la chanson, mais enfin, cette version a quelque chose de très très pur.
Bongo Man at Home.
Bongo Man, une très belle chanson très dépouillée signée par Jimmy Cliff en 1975. Il nous reste un peu de temps, et bien celui d'entendre une chanson extraite de ce qui demeurera l'ultime album de Jimmy Cliff, en tout cas publié de son vivant, Refugees. C'est paru en mi-2022. C'est un album que sa maison de disques Universal a produit conjointement avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, donc d'où le titre de Refugees. Et c'est un album dans lequel Jimmy Cliff voulait attirer ses auditeurs sur le sort des réfugiés, qu'on appelle aujourd'hui migrants, hein, c'est un peu pour les mettre à distance, les considérer comme ça, comme des masses anonymes, dont l'humanité ne serait pas tout à fait comme la nôtre. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais vous conseiller la lecture d'un roman que je viens de terminer, qui s'appelle « Le corbeau qui m'aimait », de l'auteur soudanais Abdelaziz Baraka Sakin, c'est aux éditions Zulma, et c'est un regard plein d'humour, de malice et d'humanité sur la vie des réfugiés du Soudan, d'Afghanistan et d'ailleurs, qui sont établis dans la jungle, entre guillemets, de Calais. Et franchement, on est loin des caricatures présentées habituellement, d'ailleurs qui émanent des deux bords opposés. Bref, Jimmy Cliff a fait cet album parce que, je le cite, « aucun d'entre nous ne devrait être forcé à quitter son pays, que ce soit par la violence, les facteurs économiques, la guerre ou la persécution. » Et cet album, intitulé Refugees, c'est un peu son testament. Je vous propose, avant que donc nous nous quittions, d'écouter une chanson qui s'appelle, justement, Refugees, c'est la chanson-titre, un titre écrit en collaboration avec le haïtien Wyclef Jean, qui est le cofondateur des Fugees, avec Lauryn Hill.
Listen, I'm a Fuji, that's a refugee. My family paddled through the seas. Made it through day, but the night is calling. Load on their back like when camels walking. We gon' make it through the odds. Every day that we live, there's blessing in disguise. Do unto others as you would have done unto you. Listen, that's just a word from the wise. We live for the faith, but we doubting the truth. Cause the proof only show that you care about you, about us. If you really do, give us a sign. We got women and children at the borderline. Jimmy Cliff told me there's many rivers to cross. Came to help him recover the cause.
They said that Jesus Christ went to Egypt. Followers to Ethiopia for refuge. People running here and there, looking for a home. Refugees seeking to be free. Refugees looking for safety.
Refugees, une chanson quasi testamentaire pour Jimmy Cliff. C'était en 2022 et c'est ainsi que nous nous quittons pour ce soir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous avoir diffusé Reggae Night, mais enfin vous aurez plein d'occasions sûrement très joyeuses d'entendre cette chanson. Merci beaucoup à Vincent Godard qui a réalisé et mis en onde l'émission de ce soir. Merci également à Guillaume Cohener pour le site internet ainsi qu'à Romain Couturier à la discothèque de Radio France.